Extrait du dernier mouvement donc du Quatuor en si majeur, opus 18, numéro 6 de Beethoven. Avec, en fait, on a entendu deux Malinconia comme ça, qui viennent. Mais Beethoven fera ça de plus en plus, d'ailleurs, dans ses derniers Quatuors, cette espèce d'alternance extrêmement brutale, d'état d'âme tout à fait divers, d'une manière presque maniaco-dépressive.
Tout à fait, je parlais des raptus tout à l'heure, ouais. C'est un peu ça. Et disons que là, ce mouvement est, à proprement parler, visionnaire, parce que non seulement... effectivement, il va avoir des prolongements dont on verra certains aspects tout à l'heure dans les exemples qu'on travaillera avec le Quatuor Isaïe, que l'on donnera avec le Quatuor Isaïe, mais bien plus tard encore, et notamment chez Bartok. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que ce n'est pas seulement le fait de ramener des états différents, un motif A un peu triste, très triste, un motif B gai, revenir à A, c'est une relation à proprement parler dialectique entre les deux, et c'est ça qui est extrêmement nouveau et extrêmement moderne. C'est pas seulement l'alternance, c'est l'interaction des structures, c'est justement cette espèce de dialogue de structures dont je parle un petit peu dans mon livre, en ce sens que le quatuor étant pour moi essentiellement l'art du dialogue à quatre, dialogue des quatre voix, c'est aussi l'art du dialogue des structures, c'est-à-dire que le quatuor invite le compositeur à une esthétique du dialogue généralisé qui fonctionne non seulement entre les voix, je le répète, mais entre les motifs et structures, entre les structures elles-mêmes. Et ce qu'on verra tout à l'heure,
oui, je pense... Oui, c'est un des secrets, peut-être cette sorte de tissage extraordinairement serré qu'est le quatuor à cordes. Mais lorsqu'on entend par exemple cette musique, moi je pense à ce que je vois, enfin ce qui me frappe quand je vois jouer un quatuor à cordes par rapport à d'autres instrumentistes, par exemple. On a le sentiment, quand on vous voit jouer, que vous êtes extrêmement préoccupé par des choses qui sont micro, enfin de microstructure. Vous êtes toujours comme ça sur l'extrême pointe des choses, parce qu'il faut à la fois bien sûr que vous soyez ensemble, mais on sent que les choses commencent, les choses s'arrêtent, tout peut arriver dans presque l'infiniment petit. Il y a un côté véritablement dans le quatuor à cordes de concentration absolue qui rend d'ailleurs effectivement cette forme d'une certaine façon presque névrotique, parce que lorsque on est très très concentré comme ça, n'est-ce pas, il y a un côté comme ça de détails absolument infimes, et puis après tout le monde chante en même temps, etc., et on passe comme ça de cette presque angoisse, quoi, de faire ressortir une chose infinitésimale parce qu'elle est écrite, elle est essentielle, à la volonté ensuite de bonheur ou au rêve de bonheur impossible dans le meilleur des cas et dans la meilleure des interprétations. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment par rapport aux autres musiciens qu'on réclame de vous une sorte de qualité de concentration qui n'a rien à voir avec, que sais-je, un musicien d'orchestre symphonique qui a d'autres qualités ou d'autres défauts, mais c'est pas pareil.
J'espère que ma réponse ira dans le sens que vous souhaitez. Quand vous posez cette question, il me vient à l'idée tout ce que nous disions tout à l'heure à propos des autres formations, trio, quintette. Il me semble qu'avec le quatuor, et contrairement en partie aux genres symphoniques, on part de l'intime pour aller à la grandeur. Et de cette intimité entre nous, de cette relation qui nécessite un temps d'élaboration probablement plus important que dans toutes les autres formations, on va vers l'infiniment grand, on part de l'infiniment petit pour aller à la grande chose. Évidemment, avec le genre symphonique, dans même la réalité de la vie de l'orchestre, eh bien, on joue toute la grande l'œuvre dans son ensemble, on est pratiquement au bout de nos peines après une ou deux répétitions, et puis arrive la générale, on joue au concert. Et le travail des chefs alors s'inscrit dans une recherche de détails, mais en allant du grand vers le petit. Et c'est tout à fait une démarche inverse, et probablement ce genre l'a apporté, et c'en est une de ses spécificités. Mmh. Donc évidemment, ça a un petit côté rat de bibliothèque, le nez dans la partition,
ça a un côté concentration, et en plus à quatre, effectivement, ça fait un peu quatre points cardinaux, c'est cet espace extraordinaire du quatuor à cordes, et c'est vrai que j'ai entendu, moi, mille fois le trio divertimento de Mozart, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. On n'arrive pas à trois à trouver un centre de la même manière. Puis à cinq, c'est pareil, si vous écoutez le grand quintet de Schubert, le centre est plutôt décalé vers la basse, si vous écoutez ceux de Mozart, évidemment, avec un deuxième alto, le centre est plutôt trop copieux. Ce sont de très grands chefs-d'œuvre, mais dans le quatuor à cordes, il y a ce côté, effectivement, il y a un côté presque ésotérique, c'est comme s'il y avait une sorte de dessin symbolique comme ça, avec ces quatre angles qui finalement se recoupent, et on vous sent toujours en quête d'un centre quand même. C'est ça, vous êtes tous les quatre à être là. Alors quelquefois on change, quelquefois on met le violoncelle à droite, quelquefois on le met plutôt au centre droit, enfin les quatuors peuvent se disposer un petit peu différemment. Il n'empêche qu'il y a toujours ce sentiment d'une sorte de centre qui est le lieu absolu de la musique et qui est évidemment invisible.
C'était alors un de mes grands souvenirs de pédagogie. C'est un membre d'un quatuor américain qui, justement quand nous travaillons le mouvement lent du 8e quatuor de Beethoven, opus 59, numéro 2, nous disait « Venez tous ici ». Et ici, c'était le point central entre les quatre pupitres. Alors on se demandait, et il nous a fait sentir que la musique était au centre d'entre nous. Et il fallait trouver ce chemin direct ou indirect pour nous retrouver quelque part. Et donc cet aspect encore fusionnel nous a porté. Et je pense que vous en parlez dans votre livre.
Il en parle très bien, Bernard Fournier. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer ce qui est quand même relativement mystérieux pour Beethoven, par exemple? On a le sentiment que son journal, enfin ses pensées les plus intimes, ce sont ses sonates pour le piano. Parce que lui-même était pianiste, il se met au piano, même s'il n'entend pas, il l'entend, c'est son instrument, c'est les touches, etc. Or finalement, ce n'est pas vrai. Il termine avec des quatuors à cordes, et c'est là qu'il va, je ne sais pas s'il va plus loin que dans les sonates, parce que ses dernières sonates sont évidemment d'immenses chefs-d'œuvre, mais enfin, il termine avec des quatuors à cordes. Comment est-ce qu'un quatuor à cordes, comment quatre peut être le journal intime d'un, plus qu'une musique pour les deux mains.
Mais c'est peut-être un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il s'agit des quatre instances d'une même personnalité, c'est-à-dire que, et notamment chez Beethoven, et chez ce compositeur, ça prend une dimension d'autant plus intéressante qu'il était sourd et qu'il a fait du quatuor le lieu par excellence de la communication. Il a mis en scène, dans le quatuor à cordes, ses difficultés de communication, enfin, il a transcendé, disons, ses difficultés de communication avec les autres dans le monde, et particulièrement au moment où il écrivait ses derniers quatuors, puisqu'il était à l'époque totalement sourd, il les a transcendés à travers son écriture pour quatuor à cordes, qui est véritablement, quand on la regarde en détail, un art de la communication. C'est un art de communication entre les quatre musiciens, et c'est un art de la communication des quatre musiciens vers le public. Et c'est ce qu'on va sans doute montrer tout à l'heure dans les exemples fusionnels qu'on prendra. Mais je voudrais encore rebondir sur quelque chose qu'a dit de très important, qu'a dit Luc Marie. Et ce rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, qui est tout à fait exact. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans le quatuor, c'est que c'est un mécanisme d'horlogerie. C'est le mécanisme le plus fin qu'on puisse imaginer. Parce que ce qui se passe dans le quatuor, ça se passe au niveau de la note. Et si je fais une petite parenthèse, mon livre est construit pour aller vers, le dernier chapitre va vers justement l'infiniment petit du quatuor, montrer ce qui se passe dans le détail, dans l'instant du quatuor, parce que ce qui s'y passe là est très important, et c'est à partir de là que tout rayonne, et c'est à partir de là que tout se comprend. Donc à partir de l'infiniment petit, le quatuor va vers l'infiniment grand, et je dirais aussi qu'il va vers l'infiniment profond, et ce qui est une autre façon d'aller vers l'infiniment grand, mais ce sont deux notions différentes. À partir de l'infiniment petit, il va vers l'infiniment grand, pensons à la grande fugue de Beethoven. À partir de l'infiniment petit, il va vers l'infiniment profond, pensant au lento assai et tranquillo du 16e quatuor que vous allez jouer tout à l'heure, qui est peut-être la plus belle, la page de musique la plus profonde et la plus intériorisée qui ait jamais été écrite. Donc c'est un petit peu ça le miracle du quatuor.
Alors, je rappelle que vraiment, il y a mille et une questions qu'on pouvait aborder pour évoquer votre livre sur l'esthétique du quatuor à cordes, Bernard Fournier. On a choisi véritablement simplement de parler de deux ou trois choses que je sais d'elle, comme disait Godard, deux ou trois choses que nous savons de lui. Et alors maintenant, avec le quatuor Isaïe, vous allez tout simplement effectivement mettre en œuvre à la fois votre science et je crois votre estime réciproque. Dans l'approfondissement de quelques passages. Alors, vous voyez, on est entre professionnels, il y a une pendule là-haut, et il faut que les Isaïe puissent commencer leur concert, en gros, à 16h55. Oui. Alors, peut-être que d'ailleurs que je vous arrêterai, moi je reste là, hein, aujourd'hui je me repose, je vous écoute, je vous regarde, si vous êtes, soyez pas trop professoral, que non, tout mais, le monde comprenne. Non, mais le... Alors voilà, les Isaïe donc rentrent tous sur scène, c'est-à-dire que Miguel da Silva et Luc Maria Guerra étaient là, mais ils sont installés à leur pupitre. Et Guillaume Sutre, premier violon, et Marc Copé viennent de rentrer. Je propose qu'on les applaudisse. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Alors voilà, donc moi je vous laisse ensemble, hein, Bernard Fournier. D'accord. Je suis un spectateur. Vous pouvez vous tourner vers eux. Je vais m'occuper de votre micro.
D'accord, voilà. C'est gentil.
Allez-y.
Alors, je ne voudrais surtout pas avoir l'air professoral et notamment avec un quatuor aussi prestigieux que le quatuor Isaïe, devant lequel je me sens très humble. Enfin, on a travaillé ensemble et je pense qu'on a mis au point ensemble cette petite illustration qu'on va essayer de donner et qui en fait vise à montrer un petit peu tout ce dont on vient de parler, à savoir les qualités fusionnelles du quatuor, sachant que le quatuor, on dit que le quatuor est un genre fusionnel, c'est vrai, mais c'est un genre qui est à la fois de la fusion et de la dissociation. Et encore une fois, je reprendrai le mot dialectique, la force du quatuor, c'est que c'est un genre qui manie de manière extrêmement subtile la dialectique fusion-dissociation. On va le voir sur des exemples simples qui vont nous permettre de comprendre d'abord ce que nous entendons réellement et de manière très concrète par le mot fusion. Au début du lento assai du quatuor opus 135 qui sera joué tout à l'heure, Beethoven a trouvé une mélodie absolument sublime qu'il a d'ailleurs noté comme étant un doux chant de repos. Et un chant de repos, c'est une sorte de c'est la dernière œuvre qu'il ait écrite, et c'est un chant qui est presque au-delà de la mort, qui est à la fois d'une grande sérénité, mais aussi qui est porté par une certaine mélancolie. Et ce thème, d'ailleurs, sera repris par Mahler dans le mouvement lent, l'adagio de sa troisième symphonie, de manière très proche. Alors, l'exemple qu'on va donner maintenant va vous permettre de voir. On va faire comme si Beethoven n'avait pas été complètement Beethoven. Un compositeur pas aussi génial que Beethoven aurait commencé tout de suite par exposer son thème, comme ça, thème sublime. Or, ce que Beethoven va écrire, ce n'est pas ça. Il va faire précéder ce thème de deux mesures qui sont des mesures spécifiquement fusionnelles au cours desquelles vous allez entendre successivement entrer l'alto, le violon 2, le violon 1, puis le violoncelle pour constituer un accord dans un crescendo de son. Et c'est de cet accord que va émerger ensuite le thème. Donc ce geste, non seulement c'est super musicalement, mais symboliquement, c'est l'union des quatre musiciens au moment où ils vont dire la chose la plus grave et la plus émouvante du monde. Écoutez maintenant et vous verrez que ce n'est plus la même œuvre. Terrible de devoir arrêter une page aussi superbe, mais vous ne serez pas complètement frustré puisque vous écouterez intégralement, évidemment, ce mouvement pendant le concert tout à l'heure. Ici, nous avons donc eu l'exemple d'une fusion à travers la réalisation d'un accord commun, d'où naît ensuite une mélodie. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est un petit peu l'inverse, c'est la manière dont quatre voix vont fusionner pour créer une ligne commune. Alors, il s'agit cette fois de l'adagio du huitième quatuor de Beethoven, ce mouvement dont Beethoven a dit lui-même qu'il était une musique des sphères, mouvement qu'il a écrit dans l'été 1806, inspiré par la méditation sous un ciel étoilé. Donc, l'atmosphère générale du mouvement, du moins le mouvement, commence de manière méditative, et puis comme il s'agit d'une forme sonate, la méditation se transforme un peu, et lorsqu'arrive le deuxième thème, il y a quelque chose de plus charnel qui se dessine, et véritablement on entre dans une esthétique presque héroïque, même épique, comme vous le verrez avec l'exemple qu'on va prendre maintenant, avec une nuance fortée et un rythme extrêmement incisif. Puis tout ceci va s'apaiser, et vous observerez la manière dont l'alto, dans un phrasé qui s'éteint, va reprendre un des motifs de ces motifs rythmiques, pour engendrer un thème lyrique qui lui-même va permettre à cette longue mélodie de se développer. Et ce que vous observerez alors, c'est comment cette mélodie sinue entre les graves et les aigus, partant du violon, du premier violon, descendant vers le deuxième, passant à l'alto, descendant au violoncelle, remontant à l'alto et au deuxième violon, pour finir dans la ligne de violon 1, en réalisant une véritable stase musicale. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que si on avait affaire à un autre instrument, il ne se passerait rien. Parce que ce qui est beau là-dedans, c'est le relais entre les quatre instruments. C'est la manière dont les quatre instruments se passent, cette petite ligne, l'un à l'autre. Si la ligne était jouée par un piano, ce serait un piano qui joue. C'est un instrument. Ici, quatre sujets s'unissent pour ne former qu'un. Donc c'est à la fois le thème de l'unité et, sur le plan spirituel, la réalisation de ce que j'appelais cette stase musicale. Écoutons-le.
Thank you.
avons arrêté l'extrait à un moment où nous sommes revenus sur Terre avec ces batteries qui nous ramènent effectivement dans une atmosphère plutérienne, mais effectivement,
boum, boum,
voilà, c'est ça.